Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dimanche dernier, je vous ai parlé de l'esprit de foi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de la charité sur les actions que nous avons à mener envers le prochain. Cela va nous conduire presque à la porte et à l'entrée du sujet que nous avons à traiter, à savoir que pouvons-nous faire dans les épreuves actuelles de l'Église et de la société. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de la charité, parce que c'est évidemment un des sujets les plus importants. La charité est une amitié envers Dieu. Et elle va, par conséquent, ça je vous en ai déjà parlé, saisir toute notre activité. Cependant, je voudrais que vous fassiez attention à l'expression « charité envers le prochain ». La charité étant une amitié avec Dieu, nous n'avons de charité envers le prochain, à proprement parler, qu'avec les saints. On a souvent l'habitude de confondre charité et miséricorde. C'est vrai que la miséricorde découle immédiatement de la charité, mais elle n'est pas la charité, elle est une vertu très importante, nous allons le voir, mais qu'il faut bien distinguer de la charité. Parce que celle-ci, la charité, est une vertu théologale qui a Dieu pour objet, tandis que la miséricorde est une vertu morale qui a pour objet nos actions dans le monde. Pourquoi alors dit-on si souvent pourquoi parle-t-on si souvent de charité envers le prochain? Parce que, justement, la charité nous pousse à agir en faveur du prochain. Et là, il faut faire bien attention à une différence entre la conception moderne, qui est celle de Vatican II, et la conception traditionnelle, qui est la seule vraie. La conception moderne de Vatican II, c'est que la charité nous met au service du monde pour l'épanouissement du monde, Gaudium et Spes met l'esprit au service du monde pour le développement du monde. Et hélas, c'est peut-être assez souvent la conception que nous pourrions avoir. La véritable notion de charité envers le prochain, c'est que par amour pour Dieu, nous allons chercher le prochain pour le ramener à Dieu. Pour le dire autrement, si j'aime mon ami, je veux que mon ami soit aimé par ses amis. Si j'aime Dieu, mon ami, je veux que Dieu soit aimé par ceux qu'il s'est choisi comme amis. On a là la première justification de ce qu'on appelle, dans les temps modernes, l'apostolat laïque, qu'autrefois on n'appelait pas parce qu'il s'exerçait tout naturellement. Qu'est-ce que l'apostolat? C'est l'action de l'Église. C'est l'Église qui est apôtre. C'est l'Église qui amène les âmes à Dieu. Et cet apostolat de l'Église est exercé en tout premier, évidemment, par les apôtres et leurs successeurs. C'est pour ça qu'on parle d'apostolat. Normalement, cela devrait revenir uniquement aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques. Apostolat de la vérité, apostolat de la sainteté par les sacrements, apostolat de la direction de la morale, si vous voulez, en apprenant aux hommes à se conduire. Cet apostolat est participé par les prêtres qui, évidemment, collabore avec l'évêque. Là-dessus, pas de problème. Peut-on parler d'apostolat des laïcs? Oui, bien sûr. Et à plusieurs titres. Évidemment, avant de parler de l'apostolat laïque, il faut bien voir que cet apostolat n'est pas l'apostolat ministériel, n'est pas l'apostolat, j'allais dire, officiel de l'Église. C'est un apostolat subalterne, mais c'est un véritable apostolat. C'est un véritable apostolat tout d'abord parce que, en raison de la charité, les laïcs se préoccupent du bien de l'Église. Pie XI a défini l'apostolat des laïcs comme la participation des laïcs à l'apostolat des prêtres. C'est évidemment une fausse définition. Parce que pour participer à l'apostolat des prêtres, il faut être des petits curés. Et il n'y a que les clercs qui participent à l'apostolat des prêtres, comme il n'y a que les prêtres qui participent à l'apostolat des évêques. Cette fausse définition a fait des laïcs des orgueilleux, l'action catholique orgueilleuse. Elle a fait de l'apostolat une espèce de dépendance. Elle a mis l'apostolat dans une totale dépendance de la hiérarchie. Je ne dis pas qu'il ne dépend pas, mais c'est une dépendance qui conserve l'autonomie, qui nourrit l'autonomie. Tandis que cela faisait des apôtres qui étaient le petit doigt sur la couture du pantalon. Cela a tout démoli. Ça a démoli le laïcat, les jeunes se sont pris pour des petits curés. Cela a démoli le sacerdoce, qui s'est vu commander par des jeunes. Mgr Lefebvre nous disait que des jeunes lui ont même donné des ordres, des jeunes de l'action catholique à lui lorsqu'il était évêque. Cela a démoli la notion d'apostolat, qui est une notion beaucoup trop délicate pour qu'on puisse la résoudre comme cela en une formule. Il est vrai qu'il arrive que les laïcs sortent de leur rôle et se mettent à empiéter sur le domaine véritablement propre du clergé. Et Mgr Lefebvre a été obligé de remettre en place des œuvres comme Renaissance catholique, qui avait fini par faire comme l'action catholique, donner des ordres aux prêtres. Et il leur a rappelé que l'apostolat était d'abord celui de l'Église et donc d'abord celui des prêtres. D'abord, c'est-à-dire que les laïcs agissent en dépendance. Je vous en parlerai plus en détail après. Le premier titre de l'action des laïcs dans la cité, c'est la préoccupation de l'Église. Ils veulent le bien de l'Église. La deuxième raison des laïcs, c'est la charité. Parce que les laïcs aiment Dieu, ils veulent faire aimer Dieu. Cela vient directement du sacrement de baptême qui donne le zèle. Et je vous ai dit, nous sommes tout près d'entrer dans le vif du sujet. Nous le ferons dimanche dernier ou le dimanche d'après. Donc je ne donne pas les détails. Mais il est évident que dès qu'on a compris ces choses-là, on a envie de se mettre à l'œuvre. La troisième raison pour laquelle les laïcs peuvent et doivent faire de l'apostolat, c'est la chrétienté. Ils édifient la chrétienté, et la chrétienté, c'est un bateau dans lequel Dieu souffle dans les voiles, l'Église donne la route, les cartes, peut-être à la limite tient le gouvernail, mais enfin les matelots, ce sont des laïcs. Et lorsque Christophe Colomb a conquis l'Amérique, celui qui était à la barre, ce n'était pas un prêtre, c'était un laïc, Christophe Colomb. Léon XIII dit que la chrétienté, c'est l'union de l'Église avec la société civile, comme l'union de l'âme et du corps. Or, il est évident que dans la société civile, les laïcs ont une place importante. C'est presque une définition. Et la dernière raison pour laquelle les laïcs doivent faire de l'apostolat, c'est que la définition d'un laïc, c'est de tenir une place dans la société. En termes philosophiques, on dit que tout homme est un animal politique, tout homme, c'est-à-dire qu'il a par nature, par définition, par essence, des préoccupations sociales. Un homme ne vit pas seul, et s'il ne vit pas seul, il a des préoccupations sociales, il construit la société. Un père de famille, par exemple, envoie ses enfants dans le monde, la mère de famille de même, pas de la même manière que le père, mais tous les deux, ensemble, envoient les enfants dans le monde. Le monde, c'est la société. S'ils les envoient dans le monde, c'est qu'ils ont une préoccupation sociale, une fonction sociale. La fonction des pères et des mères de famille est un petit peu analogue à celle du maître des novices dans le monastère. Ils forment les jeunes moines, ils forment les jeunes hommes, les jeunes femmes qui prendront leurs responsabilités. Ceci pour l'apostolat laïque. Les erreurs à éviter, je vous l'ai dit, c'est de prendre la charité pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire oublier qu'elle est un amour de Dieu et qu'elle consiste à faire vivre dans l'amour de Dieu. Cependant, de même que la foi éclaire toute la vie par l'esprit de foi, de même la charité donne une impulsion à toute la vie et elle le fait par les œuvres de miséricorde. On pourrait dire que les œuvres de miséricorde sont une sorte de survertu qui est à l'intermédiaire entre la charité et les vertus morales. Elle est un amour du bien qui va s'exercer dans le monde, et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin traite de la miséricorde avant les vertus morales, juste après la charité. La miséricorde, comme le nom l'indique, consiste à se pencher sur la misère et à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Si l'homme n'était pas tombé dans le péché originel, il n'y aurait pas eu de miséricorde envers le prochain, il n'y aurait eu que de l'amitié. Parce que l'amitié existe, elle est une survertu, elle aussi, naturelle. Et puis quand il s'agit d'amitié surnaturelle, on l'appelle la charité. Comme je ne vous fais pas un cours, et encore moins un cours de philosophie, je ne vous ai pas donné toutes ces précisions. Mais nous avons besoin de toute notre philosophie pour faire le moindre sermon, parce que tout ce que nous vous donnons, nécessairement, est appuyé sur la réalité divine et la réalité de la création, la réalité de l'homme. Si donc il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait eu la charité, il n'y aurait pas eu besoin de miséricorde parce qu'il n'y aurait pas eu de misère. Et puis il y aurait eu les vertus morales. Étant donné que nous sommes dans un pauvre monde constamment dans l'épreuve, il est normal que notre charité imite celle de Jésus-Christ. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, le Père a aimé le Fils en le livrant sur la croix. C'est un acte d'amour de l'homme, mais c'est d'abord un acte d'amour du Fils. De donner au Fils cette mission splendide de sauver l'humanité par ce moyen qui, certes, nous déconcerte, mais qui fait l'admiration des anges, c'est un acte d'amour de Jésus-Christ. Et cet amour, Jésus-Christ nous le transmet, il nous en fait vivre, il nous demande de vivre dans cet amour et par conséquent de prolonger son œuvre d'incarnation et de rédemption. Notre Seigneur nous dit que nous serons jugés sur les œuvres de miséricorde. Pourquoi ne dit-il pas sur la foi et la charité, par exemple? Parce que ça, c'est très vrai. Nous serons jugés sur la foi et la charité. Mais c'est pas très facile à comprendre. Et si la foi et la charité sont véritables, elles se manifesteront par la miséricorde. Et s'il n'y a pas de miséricorde, c'est que la foi et la charité n'étaient pas authentiques. Par conséquent, les œuvres de miséricorde sont le meilleur moyen de juger de la qualité d'une vie. Sont le meilleur moyen d'avoir une vie très riche, à l'imitation de Jésus-Christ qui sauve les hommes et qui a eu une vie riche par l'incarnation et la rédemption, nous de même. Venez à la droite, les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été nu, vous m'avez visité, etc. Il est évident que ces œuvres de miséricorde corporelles se complètent avec les œuvres de miséricorde spirituelles, à savoir enseigner la vérité, donner des bons conseils, corriger les pécheurs, consoler les affligés, supporter les injustices, pardonner les offenses et prier pour les vivants, les morts, nos amis, nos ennemis et ceux qui en ont besoin. Comme je veux ne pas prolonger ce sermon, je ne vais pas vous faire un sermon, je ne vais pas traiter complètement des œuvres de miséricorde aujourd'hui. J'ai voulu vous montrer comment la charité prend toute la vie et quelles sont, si on peut parler ainsi, les mains du chrétien par lesquelles il saisit le monde pour l'amener à Dieu. Ces œuvres de miséricorde sont tellement importantes qu'elles sont, je n'hésite pas à le dire, le premier objet de l'éducation. Toute éducation lance les jeunes dans le monde, et comme je vous ai dit qu'on ne pouvait être dans le monde qu'en prolongeant la charité de Dieu, toute œuvre d'éducation a pour objet premier de former à la miséricorde. Alors les jeunes, vous qui m'écoutez, et je sais qu'il y en a, demandez à vos parents de vous former à la miséricorde. Et vous-même, donnez-vous beaucoup de mal pour exercer la miséricorde. C'est une œuvre difficile, mais qui passe avant vos études. Vos études ont de l'intérêt, enfin avant, au même niveau. Il faut une tête, il faut un cœur. Il faut une tête, il faut un cœur, il faut des bras pour prolonger l'action de la tête et du cœur. Un homme qui n'aurait que la science, on pourrait dire, cela lui sert à avoir une foi vive, mais s'il n'a que la science, il n'aura pas la charité, et en tout cas, il n'aura pas la miséricorde. Il est nécessaire, mes chers amis, que dans vos temps d'études, vous réserviez une part pour l'exercice de la miséricorde. Et ne dites pas que les études sont trop prenantes, mais si les études sont trop prenantes pour vous, c'est que vous visez trop haut et que cela vous empêche d'exercer la miséricorde. Si vous êtes doué, alors vous arriverez à faire des études difficiles tout en réservant du temps pour la miséricorde. J'y reviendrai dimanche prochain. Demandons à la Sainte Vierge, Mater Miséricordiae, qui est notre vie et notre douceur, la Mère de Miséricorde, qu'elle nous donne un cœur profondément miséricordieux, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.